Vous écoutez
RMC.
RMC. Les gens d'avoir arrêté d'avoir peur. Le foot, ça se joue sur un terrain. Il faut arrêter d'avoir peur.
C'est pas la danse classique quand même. Je suis désolé. Il y a des coups, quelquefois, il n'y a rien de méchant.
Je dois juste dire à notre supporter. Scuse.
Jusqu'à minuit, c'est l'after foot. Thomas Desson.
Avec François Manardo, avec Damien Perinel et Polo va pouvoir me dire si ça va ou pas trop mon allemand brinque-ballon parce que je faisais le malin. Polo Breitner ist zurück. Vous êtes de retour avec nous, Polo, pour parler d'Air Classiker. Je continue, rien que pour t'embêter, François. Wie geht es dir, Polo?
Das geht super gut, tant que
ça. Comment ça va? Ben oui, évidemment. Ben tu vois, donc en fait, tu touches ta bille, toi aussi, en allemand. Une fois n'est pas coutume. Le Bayern a beaucoup essayé, beaucoup tenté, mais t'es battu 2-0 ce soir.
Oui, c'est un match d'avant-saison, donc ne tirons pas toutes les conséquences qu'il faut tout de suite. Ce qui me semble intéressant, c'est que c'est peut-être un signe qui vient d'arriver sur le football allemand. On se rappelle quand même que l'année dernière, le Borussia Dortmund s'était écroulé sur la fin et avait perdu le titre qui a permis au Bayern d'enchaîner un 7e titre consécutif. Ce qui est très intéressant ce soir, c'est qu'on a vu tous les problèmes du Bayern Munich qui existent en fait depuis 2-3 ans. C'est-à-dire que tu as le Borussia Dortmund, si tu veux, qui a une équipe type théorique, qui aurait une autre équipe type sur le banc, qui pourrait remplacer qui on veut, alors que de l'autre côté, eh ben, du côté bavarois, c'est la portion congrue. C'est-à-dire qu'on est en attente de transfert, on est en attente de changement de génération. Et peut-être que ce match, cette supercoupe, était plus importante qu'on veut bien le dire, parce que, justement, et devant ce fabuleux public du Signal Iduna Park, de plus de 81 000 personnes, eh ben, on a peut-être eu le vent de l'histoire, entre guillemets, qui va changer et peut-être que le Borussia Dortmund...
Polo, chez nous, on dit plus de 100 millions. Ça grattait un petit peu pour Lucas Hernandez. Plus de 100 millions, c'est totalement impossible, improbable au Bayern. Et puis un autre truc qui se dégageait, c'est Kovac, c'est pas assez bankable. C'est quoi la perception outre-Rhin?
Bon, c'est très compliqué. Alors, je vais te donner un exemple qui vient de se passer. En fait, ce qui était quasiment plus intéressant, c'est pas le match, c'est ce qui s'est passé après le match. Niko Kovac est allé discuter avec Uli Hoeness. Uli Hoeness, si tu veux, c'est celui qui a demandé à ce que Niko Kovac vienne en 2018 à Niko Kovac de venir au Bayern Munich, alors que Karl-Heinz Rummenigge ne voulait pas spécialement Niko Kovac. Il y a des guerres internes très très importantes aujourd'hui au Bayern Munich. On sait que Uli Hoeness, qui est présent depuis plus de 40 ans au Bayern Munich, va quitter la barque. On sait que Karl-Heinz Rummenigge quittera en 2021. Et en fait, aujourd'hui, on a sur le terrain toutes les problématiques, j'ai envie de dire, des bureaux de la Zebnerstrasse qui se retrouvent sur le terrain, tout simplement. C'est pas qu'il est pas plus bankable, Niko Kovac. Moi, je trouve que c'est un excellent entraîneur qui a notamment fait à Francfort un super boulot. Le problème, c'est qu'il est, un, relativement défensif comme entraîneur, et deuxièmement, il passe juste derrière 3 années complètement folles de Pep Guardiola, il passe derrière un certain Jupp Heynckes. Même Ancelotti, si tu veux, n'a pas marqué les mémoires lorsqu'il est arrivé. C'est très compliqué ce qui se passe en ce moment au Bayern Munich. Il y a une autre chose qui est très importante aussi, c'est que n'oublions pas que le Bayern Munich a une peur bleue de se faire complètement distancer financièrement par les gros clubs européens. Et là, on est dans toutes les problématiques actuelles et on est dans une phase de changement très très importante.
Et puis si leurs grands clubs s'en vont, ils vont perdre un petit peu de terrain sur la place politique aussi, effectivement.
Bonsoir Polo.
Bonsoir.
Je voulais savoir... Aujourd'hui, Kovac, dans son vestiaire, est-ce qu'il a vraiment la main sur son vestiaire? Ou alors, comme l'année dernière, comme ça a été le cas avec Rames notamment, il a été remis en question devant tout le vestiaire, devant tous les joueurs, en lui disant, en disant, mais en fait, t'as rien à faire ici, t'es pas un ancien. Comment ça se passe? Est-ce qu'il a réussi à retourner cette situation, à avoir les joueurs derrière lui?
Alors, c'est très compliqué. Déjà, c'est un ancien, puisqu'il était un ancien du Bayern Munich entre 2007 et 2009, c'est quelqu'un qui a porté le maillot du Bayern Munich, mais ce que tu dis est tout à fait exact. C'est-à-dire que le groupe n'est pas forcément à 100% derrière lui. Mais là encore, c'est des luttes internes. Je prends un exemple. Lorsqu'il était à Francfort, il a connu Rebic, il a connu Jovic. Il a demandé, par la presse par exemple, que ses joueurs débarquent au Bayern Munich. Est-ce que ces joueurs sont là aujourd'hui? Ils ne sont pas là. Jovic est déjà au Real Madrid. Et d'ailleurs, on cherche toujours quelque part quelqu'un pour titiller Lewandowski. Donc le groupe n'a pas fondamentalement changé. Il s'est même quelque part un petit peu affaibli, parce qu'on oublie toujours. On a rigolé pendant plus de 10 ans avec Robben et Ribéry, mais ils sont plus là, Robben et Ribéry. Et ces deux joueurs-là ont marqué l'histoire du Bayern Munich. C'est très très compliqué en ce moment ce qui se passe. Niko Kovac, plus cette défaite, s'il faut rajouter cette défaite de soir, aussi anecdotique soit-elle, il n'a pas les coudées franches, il n'est pas assuré de rester, il a un mental extraordinaire parce qu'il faut se rendre compte ce qui s'est passé l'année dernière. Il en a pris plein la tronche pendant un an, y compris par son board, par Rummenigge, etc. Il a jamais rien dit, il a courbé les chines, etc. Il a réussi quand même à prendre le doublé, mais en fait, t'as l'impression que tout recommence. On se dit, ah bah oui, c'est la deuxième saison, on va y arriver. Eh ben non, ça recommence.
Moi, je sais pas si c'est anecdotique cette défaite ce soir, parce que t'as commencé comme ça. Dortmund avait 9 points d'avance, mais moi j'ai le sentiment que c'est 8e de finale où ils perdent les deux matchs contre Tottenham, et ensuite la saison part en déliquescence. Mais Royce réalise sa plus belle saison sur le plan comptable, c'est toujours la même histoire. Si Royce est bien physiquement, l'équipe tourne. Est-ce que finalement les jaunes et noirs peuvent pas leur manger la laine sur le dos au fil du temps?
J'en suis persuadé, déjà, parce qu'ils ont deux équipes aujourd'hui. Il y a quasiment 25 joueurs titulaires sur le terrain. Le recrutement, c'est du haut de gamme. Mats Hummels, comme par hasard, qui revient à Dortmund alors qu'il était au Bayern Munich. Donc, quelque part, ils ont affaibli le Bayern Munich. Je vous rappelle quand même que la performance de Jérôme Boateng ce soir est juste assez catastrophique. Hein. Donc, n'oublions pas, on a d'ailleurs deux camions en défense centrale. On a Zulu d'un côté, puis Boateng. Hein.
Et en plus de ça, excuse-moi de te couper, Polo, c'est-à-dire qu'ils font des pertes de balles où les deux sont écartés et ils sont offensifs et ils vont perdre des ballons super simples. Ça part dans leur dos tout de suite. Et derrière, c'est 38 tonnes qui essaient de revenir, quoi.
Ça va être très très compliqué à mon avis, donc vivement que Lucas, moi je le dis déjà en allemand, Lucas revienne, Lucas Hernandez évidemment, arrive en défense centrale. Le deuxième chose, c'est le recrutement du Bayern Munich. Ce soir, il manquait 4 joueurs théoriquement titulaires. Mats Hummels, blessé, le gardien, Bürki, Thorgan Hazard qui débarque de Mönchengladbach, qui ressemble beaucoup à un joueur que vous avez peut-être connu il y a quelques années, qui c'est un Vénézuélien qui s'appelait Arango, qui était au Borussia Mönchengladbach et qui était un jeu long assez extraordinaire. Sous les ordres de qui? De Lucien Favre, qui aujourd'hui, évidemment, est au Borussia Dortmund. Il y a l'arrivée de Julian Brandt. C'est-à-dire que vous avez 3 places au milieu. Reus, Thorgan Hazard, Julian Brandt et Sancho. Vous avez 4 joueurs pour 3 places. Et c'est comme ça dans tous les postes. Donc vous avez vraiment un effectif haut de gamme et de quantité pour aller travailler sur tous les tableaux au Borussia Dortmund. Alors que, excusez-moi, c'est la portion congrue au Bayern Munich.
On va prendre Bruno qui est avec nous, qui est un supporter de Dortmund, Mahmoud Daoud, tout ce contenu. Pulisic s'en va, Sancho fait un super match. Bruno, bonsoir, belle victoire et tu es heureux en tant que supporter des Schwarzgelben.
Bah, je suis heureux, mais j'ai surtout l'impression de pas avoir vu le même match que vous, puisque depuis tout à l'heure, vous parlez d'une défaite. Moi, j'ai pas vu de défaite du tout. Moi, j'ai vu une victoire. J'ai vu le Bayern faire un bon match, essayer. Alors, c'est sûr, c'était décousu et il y avait beaucoup d'intensité dans le match, mais les deux équipes étaient un peu brouillonnes. Ça se voyait qu'il y avait encore des réglages à faire et qu'on était en début de saison. Je rejoins Polo sur le fait qu'effectivement, le Bayern doit renouveler sa génération et comme beaucoup de grandes équipes, c'est très compliqué de renouveler les générations. Et surtout que bon, la personnalité de certains dirigeants font qu'il y a beaucoup de recrutements qui ont été extrêmement compliqués et c'est pour ça qu'il se passe pas grand chose depuis ce mercato d'été, puisque Pavard et Lucas Hernandez, c'était des transferts qui étaient arrangés depuis bien longtemps. Je comprends que le Bayern ait beaucoup de soucis, mais moi ce que j'ai vu ce soir, j'ai surtout vu Dortmund être meilleur que le Bayern, prendre le Bayern correctement, bien défendre, attaquer comme il faut, attaquer sur les points faibles du Bayern, c'est-à-dire la lourdeur de leur défense centrale. Et je trouve même que l'arbitre a été plutôt bon, même si j'aurais bien mis un petit rouge à Kimmich parce que sa semelle, elle est hors sujet. L'arbitre, je trouve, il faut le souligner aussi, a très très bien tenu le match et a très bien arbitré dans le bon tempo. Moi, j'ai vu un beau match, mais j'ai surtout vu une victoire de Dortmund plus qu'une défaite du Bayern.
Voilà, Polo, ils ont beaucoup tenté. Vision du verre à moitié plein, plutôt que de dire que le Bayern a contre-performé, c'est Dortmund qui a performé.
J'ai beaucoup de personnes aujourd'hui qui me disent, mais même avant la saison, on me disait que Dortmund va passer devant. Donc le problème, c'est que est-ce qu'on passe devant en augmentant la densité ou est-ce qu'on passe devant parce que l'autre s'écroule? Moi, le problème que je vois, encore une fois, c'est qu'on me parle de Coman, on me parle de Gnabry au Bayern Munich, mais je suis désolé, ce ne sont pas des joueurs qui ont le niveau de ce qu'ont été Robben et Ribéry. Par contre, là où je suis tout à fait d'accord, et je rejoins Bruno, et je suis surtout ce soir super content pour un coach, moi. Je suis content pour Lucien Favre, qu'il a un petit titre comme ça, même si c'est pas le plus prestigieux, parce que c'est quelqu'un qui le mérite largement.
Il en a pris plein la poire en fin de saison dernière, là, parce que l'image qu'il a été beaucoup faite.
Mais justement, il a été très critiqué, parce que on parle de la fin de saison dernière, mais ce qu'on oublie, c'est qu'il a failli perdre, il a perdu aussi le titre à l'époque où il était au Hertha Berlin. Lorsqu'il était au Borussia Mönchengladbach, il était aussi en position plusieurs fois, enfin, il a été plusieurs fois, deux fois en Ligue des Champions, mais il pouvait aller chercher un titre aussi pendant un moment, et il s'est souvent écroulé sur la fin.
Souvent placé, Lucien Favre, oui. Souvent placé,
rarement. problème. Et moi, je sais que c'est quelqu'un que je place en quasiment les meilleurs entraîneurs d'Europe pour différentes raisons qu'on n'a pas le temps d'expliquer. Mais ce que je pense, et là où je suis d'accord avec Bruno, c'est que je n'ai rarement vu, alors j'ai pas envie de comparer le Bayern, le Dortmund d'aujourd'hui avec celui de 2011-2012, Klopp, qui ont été deux fois champions d'Allemagne, mais Dortmund a tout pour faire quelque chose cette année. Il y a une concurrence extraordinaire. Il manquait encore une fois 4 joueurs ce soir. On n'a même pas parlé d'un Mario Götze qui est sur le banc. On se demande encore ce qu'il fait là. On a juste vu rentrer dans les 10 dernières minutes à Marius Wolf qui mériterait peut-être une sélection internationale, etc., etc. Ils ont vraiment mis les bouchées doubles, le Borussia Dortmund. Et j'ai envie de dire simplement, enfin, ils ont sorti un peu, ils ont arrêté d'avoir des oursins dans les poches. Et ça devient intéressant parce qu'un club qui fait plus de 500 millions d'euros de chiffre d'affaires, je suis désolé, mais on peut avoir deux équipes sur le terrain, enfin deux équipes, on peut avoir des remplaçants, ce qui encore une fois n'est pas le cas.
Bonsoir Polo, à t'entendre, on pourrait presque croire que tu vois le Borussia limite survoler cette Bundesliga 2019-2020, alors que non. Tu sais très bien que les Munichois, même s'ils sont dans une saison de transition, ils vont très très chèrement vendre leur peau.
On peut voir ça comme ça, mais moi déjà je vois pas forcément Dortmund largement au-dessus. Le Bayer Leverkusen a un recrutement très très intéressant. N'oublions pas qu'à Leipzig, il y a un coach qui s'appelle Julian Nagelsmann qui est arrivé avec qui a été très intéressant au Hoffenheim et qui est la nouvelle entre guillemets pépite du football allemand en ce qui concerne les entraîneurs. Le Borussia Mönchengladbach, c'est vachement intéressant aussi avec Marco Rose, qui vient de débarquer de Salzbourg. Rappelez-vous la demi-finale contre Marseille il y a 2 ans. Moi, je pense qu'on va avoir un championnat très, très intéressant. Et je dirais pas que Dortmund est le favori, mais Dortmund, ce soir, a marqué des points.
Voilà. Il y a un club que t'as pas mentionné, et on voudrait bien savoir la perspective outre-Rhin. Kevin Trapp, va-t-il retourner à l'Eintracht Francfort, 7e l'an dernier, qui était à une place de Ligue des Champions jusqu'à l'avant-dernière ou l'antépénultième journée?
Finaliste de l'Europa League.
Alors, fabuleux demi-finaliste avec un beau parcours d'ailleurs. Alors c'est très simple, pour l'Allemagne c'est fait quoi. Donc,
d'accord, c'est acté.
Moi je suis pas dans le dossier, je suis pas ni avec Kevin Trapp, ni avec Francfort, ni avec Freddy Bobic, ni avec Robert Hübner, ni avec qui tu veux. Je te dis que pour l'Allemagne c'est fait.
Bah voilà, c'est acté. Donc les gars, va falloir que Areola prenne ses responsabilités et soit plus confiant ou qu'on lui accorde de la confiance. Non, moi ce que j'ai entendu chez Polo, c'est que l'empire Bayern s'étiole et que la suite des événements va être une sacrée comédia dell'arte.
L'empire Bayern ne s'étiole, tu es très sévère.
Les piliers vont s'en aller.
Bayern Lyonnais, ils seront toujours debout. Après, c'est entre premier et deuxième au Bayern. Mais deuxième, c'est un échec en Bavière.
Non, moi je suis curieux de voir ce que va faire le RB Leipzig avec Nagelsmann comme coach.
Oui,
ça va être parce que je pense que ce club avait besoin justement de prendre un virage, de passer à autre chose. Et ce jeune coach qui est vraiment dans la culture justement Red Bull. Voilà, je suis très curieux de savoir comment ça va se passer pour eux.
Ouais, plein de jeunes entraîneurs, hein. Il y en a 5 ou 6 encore qui sont à peine quadra en Bundesliga. Bruno n'a pas 40 ans non plus et il est super content, ce supporter du Dortmund. Est-ce qu'il y a un petit mot à ajouter sur tes joueurs, sur ton équipe?
L'équipe surtout avec les blessures s'est très bien comportée. Je voudrais pas en rajouter une couche sur le Bayern, mais il faut pas oublier qu'il y a un certain nombre de joueurs et un certain nombre de cadres du Bayern qui ont très clairement indiqué dans les médias que pendant la tournée américaine, que si l'effectif ne se renforçait pas et si l'effectif n'était pas capable d'atteindre leurs ambitions, ils chercheraient à aller voir ailleurs Kimmich en premier. Tous les deux signifiaient pendant la tournée américaine que si l'équipe ne pouvait pas atteindre leur niveau d'ambition à eux, ils chercheraient une équipe qui pourrait leur permettre de le faire.
Mais eux, ils servent à quoi alors en tant que joueur? C'est ça qui est assez paradoxal quand même. Ils se plaignent, mais c'est ton boulot de performer avec ton club. Enfin, c'est assez bizarre, je trouve. Et il me semble même qu'il y a eu une pétition de la part des joueurs pour pas vendre Boateng, quelque chose comme ça. C'est vrai, Polo?
C'est pas une pétition, c'est qu'en fait ils disent qu'il doit rester, mais s'il y en a bien un qui devait partir entre Mats Hummels et Jérôme Boateng, c'était surtout pas Mats Hummels. Le encore une fois, je voudrais sortir un peu du terrain. Cette année 2019-2020 va être très très importante sur ce qui va se passer dans les bureaux. Et je discutais hier avec quelqu'un qui est un fan du foot allemand et qui a à peu près mon âge, donc on vieillit. Lorsque j'ai commencé à m'intéresser au football allemand, où Lyonnais était déjà dans les bureaux du Bayern Munich, et cette année, ça va sûrement être l'année où il va partir. Ça va être très très compliqué. Bon, les gens ne se rendent pas compte, c'est un monument qui va partir, quoi. Et et derrière, on va voir ce qui va se passer dans le club. Mais en ce qui concerne les joueurs, je pense déjà, faut pas oublier qu'ils sont sous contrat, que c'est pas facile de les acheter et qu'il y a très très peu de clubs en Europe qui peuvent se les acheter. Ce qui est sûr, c'est que, à l'aune de ce qu'on a vu ce soir, il manque au minimum 2-3 joueurs. Alors, il manquait 2-3 joueurs ce soir qui étaient blessés. Mais sur le banc au minimum. Leroy Sané, bon oui, ça c'est, je vais pas dire que c'est fait, mais c'est en très très bonne voie. Bon, en tout cas, il y a d'autres noms qui peuvent circuler. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un ailier qui va débarquer. Ils en ont absolument besoin. N'oublions pas qu'il n'y a pas de véritable remplaçant à Lewandowski en cas où Lewandowski a une blessure sur le long terme. C'est-à-dire que Thomas Müller peut pas jouer au neuf pendant toute la saison, d'autant plus que ses performances depuis 2016 sont extrêmement médiocres. On peut le dire d'une façon très simple. Hein, vous savez, il y a un défenseur central champion du monde qui est parti du Bayern. Il y a deux ailiers qui sont partis et il y a deux défenseurs centraux champions du monde qui sont arrivés au Bayern. Il manque au minimum deux ailiers. Et c'est pas compliqué. Il y a une grosse densité au milieu de terrain dans le 4-3-3 de Niko Kovac. Tolisso a d'ailleurs peut trouver sa place. Il a d'ailleurs pas été extraordinaire ce soir. Mais c'est pas gagné pour lui. Mais encore une fois, on ne va pas remplacer Robben et Ribéry comme ça du jour au lendemain. Et là, on sait très bien, et c'est ce qu'on disait en Allemagne, que ça fait 2-3 ans qu'il aurait fallu prévoir cette succession et on ne l'a pas fait.
Oui, mais tu l'as dit, pour faire un casse, pour faire un robbery, il faut mettre des sous cette année. Attention donc à ne pas décrocher des mastodontes du football européen ou voir des nouveaux riches. Pourquoi je te dis ça? Parce que Lothar Matthäus, puisqu'on parle de nouveaux riches, n'y est pas allé de main morte. Il n'a pas adoubé Tété. Pour lui, c'est pas une berline allemande, Thomas Tuchel. C'est un peu ça, non?
Oui, enfin, je suis toujours surpris que les plus grands joueurs allemands de l'histoire de ce football à la carrière assez minable passent leur vie à la carrière d'entraîneur assez minable
passent
leur
vie. Oui quand même
parce que j'ai
commencé à transpirer très fort
en
Ballon d'Or
non je parle de
sa carrière d'entraîneur.
Voilà, passent leur vie à critiquer leurs supposés compatriotes et congénères. Lothar Matthäus, pour qui j'ai un énorme respect, parce que j'étais encore adolescent lorsque je le voyais jouer, ou tout jeune adulte, je sais ce qu'il était capable de faire sur le terrain, et j'ai vu aussi ce qu'il était capable de faire.
On a le sentiment, Polo, que dès qu'un entraîneur allemand s'exporte, il en prend plein la figure. Klopp, au début, quand il s'exporte, ça y est, c'est mal vu aussi. Donc, tout le monde est très délorié.
Mais même en Allemagne, c'est toujours pareil, ça fait partie aussi. Moi, ce que je veux dire juste, c'est que Lothar Matthäus, personne n'en veut en tant que coach. Hein, et Lothar Matthäus, il fait la tournée des popotes dans les médias allemands et il passe son temps.
Alors attends, on a été un petit peu plus vite que la musique, Polo, mais en substance, je crois que c'était bon. C'est vrai qu'il a gagné un championnat que tout le monde doit gagner.
Sévère, hein.
Mais non, il dit voilà, il dit les choses.
Agréable.
Il s'est vautré sur les coupes.
Oui, il a dit vautré. Il a dit en gros, il a échoué dans les coupes. Il a gagné que le titre,
ce qui est le minimum,
le championnat, parce que c'est un championnat facile quand tu as cette équipe-là. Et puis il a dit voilà, cette élimination contre United. Elle n'est pas à sa gloire.
Et quoi. Il a aussi dit qu'il ne voyait pas la ligne directrice du club avec Nasser Al-Khelaïfi.
Je ne suis pas un spécialiste du PSG, mais ce que je n'aurais pas dit n'importe quoi, mais il n'y a pas 50 changements dans l'équipe type cette année par rapport à l'année dernière.
Non, mais surtout, il y a une recrue, il y a Leonardo qui est peut-être là aussi pour mettre de l'ordre dans tout ça. Et
Non, tu passes de calinothérapie à des choses plus allemandes, plus pratiques.
Ouais, non, cette année. Polo, moi je pense que si la critique, la même dans le fond et la forme, elle venait d'un Heinkes, elle venait d'un entraîneur allemand plus chevronné ou d'un entraîneur chevronné en Bundesliga, mais là comme tu l'as dit, venant de Lothar Matthäus, dont la carrière d'entraîneur ou de sélectionneur, il a été sélectionneur de la Bulgarie,
non mais il y a plusieurs choses. Un, Jupp Heynckes ne s'exprimerait pas de cette façon.
Exactement.
La deuxième chose, c'est que comme vous l'avez dit, il n'a pas été adoubé par Lothar Matthäus, sauf qu'il a été adoubé par Pep Guardiola, Thomas Tuchel. Donc c'est pas tout à fait le même niveau au niveau des entraîneurs. Ensuite, je le rappelle, c'est un jeu très connu en Allemagne de passer son temps à casser du sucre, notamment ceux qui ont été en tant que joueurs avec des palmarès longs comme Le Bras, ce qui était le cas évidemment de Lothar Matthäus, Ballon d'Or 90, champion du monde 90, etc. Il était même champion d'Europe en 1980, hein, et j'avais 9 ans. Donc ce qui est important, c'est de connaître le personnage. Moi, je l'ai rencontré, Lothar Matthäus, c'est pas fondamentalement intéressant. C'est comme Beckenbauer. Beckenbauer, évidemment, plus grand joueur allemand de tous les temps. Lorsqu'il s'exprime sur le football, c'est pas forcément des choses assez passionnantes. Un Jürgen Klopp est beaucoup plus intéressant. Un Thomas Tuchel qui parle du football est beaucoup plus intéressant à écouter. Ou même des personnages.
On en a chez nous des exemples comme ça aussi. De...
Non, on n'a pas Beckenbauer chez nous.
Non, mais pas des grands joueurs, mais qui, tu peux t'asseoir à la table et boire les propos.
On a des grands joueurs, mais on n'a pas des légendes.
Non, non, mais par rapport à cet entraîneur qui, voilà, chez les Portugais, regardez, José Mourinho n'a pas eu une grande carrière. Il peut être intéressant.
Ah oui, oui, oui. Voilà. Et puis Michel Platini n'a pas eu une grande carrière non plus de sélectionneur, mais si j'en parle les fous, etc. Peut-être envie de l'écouter.
Mais là, il y a eu une interview cette semaine de Van Gaal qui est exceptionnelle. Vraiment, c'est une inspiration, je pense, pour beaucoup de coachs. Jeune coach comme moi, d'ailleurs. Mais si vous avez du temps, lisez cette interview.
Louis Van Gaal, donc, puisqu'on parle d'ancien.
Et lisez son autobiographie.
On va faire ça, Bolo.
Voilà.
Merci, on va aller ouvrir une page anglaise parce que demain, après cette super coupe d'Allemagne, il y a le Community Shield entre Liverpool et Manchester City. Bah, City a gagné les deux, hein, et le championnat et la coupe. Enfin bon, fallait aller chercher le deuxième, il pouvait pas s'auto-trucider et se faire harakiri. Merci Polo, on va suivre quand même cette saison de Bundesliga avec beaucoup d'attention. Avec toi donc de retour dans l'équipe de l'After avec ce nouveau programme triple dose de 21h à minuit la plupart du temps. Merci Polo.
Ciao, ciao.
Merci.
Salut.
Dans un instant, on parle du Community Shield. Et puis, vous avez compris, si vous aimez ce doux monde du football où on passe son temps à s'adouber entre entraîneurs, anciens entraîneurs, joueurs vers entraîneurs, eh bien, restez avec nous. C'est l'After sur RMC.
RMC, l'After Foot.
Avec Damien Périnel, nos consultants, une émission préparée par Cyprien Bétou. Et puisqu'on parle EPL, Premier League, eh bien on a notre envoyé spécial, Julien Laurence, qui est là. Enfin, on va parler CS. Salut Julien.
Salut à tous.
Le Community Shield demain à 16h à Wembley. C'est le vainqueur du championnat contre le vainqueur de la Coupe d'Angleterre, la FA Cup. Bah je le disais, hein, ils ont remporté les deux. Donc du coup, le deuxième, 97 points, plus gros total de l'histoire sans être sacré. Est-ce que Liverpool va le faire ou est-ce que finalement, candidat à sa succession ultra favori pour un triplé, voilà ce dont on va débattre avec toi, Julien. Quelles sont les dernières popotes? Parce que nous, on a le sentiment que... les matchs de City ont été plutôt tranquilles, je parle de la préparation, et ceux de Liverpool un peu
plus étriqués. Ce ne sont pas les mêmes adversaires, hein, Julien va le dire.
Oui, pas les mêmes adversaires, mais c'est vrai que la forme de Liverpool à un moment a peut-être pu inquiéter. On les a vus en bien meilleure forme contre Lyon, notamment le week-end dernier. Pour City, ça a été assez tranquille pendant tout l'été. Mais c'est vrai que ce match demain, il est forcément particulier, déjà parce que c'est le lever de rideau de la saison. C'est toujours le premier match de la saison. C'est comme ça qu'on débute la saison en Angleterre. Parce que cette rivalité aussi entre Liverpool et Manchester City, elle commence vraiment à être intéressante. On a vu Pep Guardiola et Jürgen Klopp encore cette semaine se critiquer par médias interposés. Klopp disait que c'était que City vivait dans un monde un petit peu de fantasy, avec tout l'argent qu'il pouvait dépenser. Guardiola lui a répondu en disant que normalement l'été dernier par exemple Liverpool a dépensé beaucoup plus d'argent que Manchester City, donc que c'était pas forcément la vérité ce que Klopp disait. Donc ça nous a amené un petit peu de piment avant la rencontre de demain.
Messieurs, blanc sur rouge, rien ne bouge, à part un Van den Berg qui a 17 ans, qui est néerlandais, qui est peut-être un futur Van Dijk, mais qui va pas jouer tout de suite.
Ni Liverpool, ils ont pas lâché une livre.
Et c'est bien joué?
Non, City oui.
Non mais ce mercato qui a finalement
City,
été...
City ils ont claqué Rodri
mais pour Liverpool là,
le 16 fait... pour le joueur du PSV là, Angelino espagnol, et puis Alex Garcia qui est retour de prêt, mais bon c'est surtout Rodri hein, Julien, 70.
Ouais, c'est Rodri, ouais, dont ils avaient vraiment besoin, hein, ce profil-là en sentinelle devant la défense, parce que Fernandinho aura 34 ans bientôt et il était vraiment le seul à pouvoir faire ce job. Donc Rodri, je pense, va leur faire beaucoup de bien.
Pour revenir sur Liverpool, aujourd'hui, si tu fais un recrutement, c'est pour apporter une plus-value à ton équipe, c'est-à-dire pour remplacer un joueur et que tu prends un joueur meilleur. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans leur équipe, je vois pas de trou à ce niveau-là. C'est-à-dire qu'il, vu le système de jeu et la méthode Klopp, ils ont tous les joueurs adéquats pour répondre aux exigences de club.
C'est ça.
Qu'est-ce que t'en penses, Julien?
Qu'est-ce que tu veux dire par faire une Tottenham, François? C'est comme la SSE, voilà, c'est ça.
Pas dans le moment, souvenez-vous. Pas de transfert.
Souvenez-vous des transferts, effectivement, au Mercato 2018, et ensuite, Pochettino, ça n'avait pas bougé chez les Hotspurs.
Quand il n'y a pas
Julien,
besoin,
Julien,
tu retournes
avec nous. Est-ce que ce Liverpool qui la joue comme Tottenham au niveau du marché des transferts, c'est une bonne façon de faire?
Alors personnellement, moi je trouve pas. Je pense que un, ils ont l'argent à dépenser s'ils le souhaitaient. Deux, je comprends l'idée de notion de groupe que Jurgen Klopp développe en disant je suis très content avec le groupe que j'ai. C'est un groupe très homogène qui vit très bien, etc. Mais pour rejoindre ce que Damien disait, il y a quand même beaucoup de postes où ils auraient pu trouver une plus-value, apporter une plus-value. Par exemple, si tu regardes le défenseur central à côté de Van Dijk, certes Joe Gomez, en qui ils ont beaucoup beaucoup d'espoir, qui est un jeune international anglais qui a beaucoup de talent mais qui a été blessé pendant quasiment deux tiers de la saison, revient. Mais sinon c'était Joël Matip qui est un bon joueur, mais Liverpool aurait très bien pu par exemple aller chercher un autre très très bon défenseur central. Tu peux regarder au milieu de terrain aussi où à un moment James Milner.
T'es pas battu d'avance quand t'as l'épouvantail Van Dijk à côté de toi et que n'importe qui à côté de Van Dijk va paraître moribond, moins bon.
Pas forcément, mais je pense que Van Dijk rend tous les joueurs qui jouent à côté de lui meilleurs. On l'a vu aussi avec Robertson et avec Alexander-Arnold par exemple sur les côtés. Mais je pense qu'ils auraient pu aller chercher quelqu'un qui était meilleur que ce qu'ils avaient en défense centrale, au milieu de terrain aussi. Et puis si tu regardes devant, certes les trois titulaires, Firmino, Salah et Mané, c'est du très très haut niveau, mais derrière, s'il y en a un qui se blesse, il te reste Divock Origi et Shaqiri, et puis c'est tout. Donc à un moment, c'est vrai que ils auraient toujours pu apporter plus. Pour l'instant, ils ont fait le choix de rester comme ça. Il leur reste 5 jours dans le marché de transfert ici en Angleterre. Je ne sais pas s'ils vont ajouter quelqu'un, mais le match de demain, par exemple, pourrait peut-être faire changer un petit peu ça côté Jurgen Klopp et Liverpool.
Du côté du défenseur central, ils ont lâché Lovren, c'est ça ? Ou ça va se faire ?
C'est fait, on en a parlé.
Bon, ils vont sans doute recruter, Julien, un défenseur central qui rentrera dans le turnover.
Bah c'est ce que tu pourrais espérer, mais c'est vrai que si t'en cherches un pour remplacer un Lovren, bah tu chercheras pas forcément le même profil que un qui pourrait être aussi fort que Van Dijk ou jouer à côté de Van Dijk.
Lovren aussi fort que Van Dijk, ça tu peux pas y toucher.
Quand tu sais que Maguire coûte 90 millions.
En plus. Et puis s'ils avaient été tentés de faire la paire de la sélection néerlandaise de Ligt Van Dijk, on l'aurait su.
Mais beaucoup de gens, par exemple en Angleterre, s'étonnent du fait qu'ils aient pas participé du tout à la course à Matthijs de Ligt, par exemple.
Ah oui, non, mais effectivement, parce que
tu recrées ça.
Oui, tu recrées ça, et puis tu peux voyager encore plus tranquille. Après, moi, je connais pas du tout la nature des relations entre Mino Raiola et la direction des Reds, mais oui, ça peut piquer la curiosité de savoir pourquoi les Reds, parce que Matip. Il a vraiment très bien fait le boulot. Après, sans faire de parallèle avec Van Dijk, parce que encore une fois, aujourd'hui, 99% des défenseurs centraux, si tu les mets en parallèle de Van Dijk, tu vas les trouver un ton en dessous, voire carrément moins bon. Mais je suis d'accord avec Julien. Tu peux hausser le ton en termes de recrutement pour l'associer avec un central meilleur que Matip.
Avant de revenir sur City, je me pose quand même quelques questions, Julien. Préparation étriquée, 3-1 contre l'OL, 31 juillet dernier, une défaite contre le Napoli. Aux USA, c'était 2-2 contre le Sporting. Un peu étriquée quand même, cette préparation de Liverpool.
Oui, c'est sûr, un peu étriqué. Notamment, il y a le match contre Napoli où ils ont fait un peu n'importe quoi dans leur pressing et dans leur façon de jouer assez haut, où c'était très loin de ce qu'on avait pu voir la saison dernière. Après, t'as des joueurs qui sont même pas revenus encore de vacances, comme Sadio Mané par exemple. Salah et Firmino, ça fait qu'une seule semaine qu'ils sont avec le groupe. C'est quand même difficile de trop les juger sur ces matchs amicaux où t'as avec eux la moitié de l'équipe type qui était là, ou des joueurs qui étaient pas encore totalement à fond physiquement. C'est un peu compliqué. Klopp, lui, en tout cas pour l'instant, ne s'inquiète pas. Ils ont un premier match de championnat contre Norwich à domicile le week-end prochain, vendredi 9. Ça devrait les faire rentrer dans le championnat de manière assez cool, on va dire. Et après, on verra. Mais en tout cas, pour l'instant, eux n'ont pas l'air trop inquiets par leur préparation, comme tu l'as dit, un petit peu étriquée.
Pierre, au 32-16, nous dit non, mais ce match-là, demain, c'est comme un autre auditeur qui nous faisait le trophée des champions. Ne tirez pas de conclusion. Pour toi, Pierre, ça n'a pas d'importance, ce Community Shield ?
Oui, bonsoir messieurs.
Bonsoir. Salut.
Bonsoir Pierre.
Salut Pierre.
Pour moi, c'est le dernier match de préparation avant le début du championnat en fait. Voilà. Je pense que Klopp, il l'a dit, Klopp, il s'en fout du Community Shield et il va préparer pour attaquer plein badin contre Norwich en championnat.
Plein badin, je l'aime bien cette expression ressortie de 1972. Il y a que François Blando qui l'utilise.
Ressorti chez Moscato.
Ouais, parfait.
ouais, voilà. Après, vous parliez du recrutement. Moi, je pense qu'en défense centrale, ils auraient pu essayer de choper un Umtiti, par exemple, qui va peut-être pas avoir beaucoup de temps de jeu parce qu'il y a l'anglais et compagnie au Barça. et aller chercher un Umtiti pour le mettre avec Van Dijk, ça aurait pu être pas mal.
Moi, il y a un anglais, il y a un anglais que j'aime bien, qu'on a vu jouer cet après-midi à Bournemouth, c'est Nathan Ake. Et je trouve que c'est quelqu'un qui pourrait vraiment fitter avec Van Dijk, hollandais comme lui. Ça aurait de la gueule cette défense centrale maintenant.
Et sinon, moi je voyais que là ou peut-être aussi le latéral droit parce que c'est Milner qui dépanne quand Alexander Arnold n'est pas là et il suffit qu'il y ait un peu de blessé au milieu de terrain. Ben Milner il peut pas jouer à ce poste là où il est meilleur quand même qu'en latéral. Donc c'est vrai qu'il y avait peut-être deux trois coups à faire parce que les derniers coups qu'ils ont fait Liverpool en allant chercher Robertson que personne connaissait. Bon Matip, Klopp il l'a pris, il le connaissait d'Allemagne, il avait confiance en lui. Là vous m'apprenez que Lovren il dégage, c'est une très bonne nouvelle. Peut-être boire une bière pour fêter ça parce que lui je vois pas ce qu'il foutait dans un club.
C'est vrai que la profondeur des Reds n'est pas énorme. Hein. Ils ont beaucoup joué. Souvent la même équipe, hormis Divock Origi, effectivement, et ses buts salvateurs en fin
de C'est ce qui a fait la différence par rapport à la saison encore d'avant, c'est que l'année dernière, ils ont quasiment pas eu de blessés.
Ah, puis c'est que tu avais un gardien aussi l'année dernière.
Oui, d'accord, mais je veux dire, quand ils arrivent en finale de la Champions League l'année dernière, quand Salah y sort, on fait rentrer Lallana qui a pas joué de l'année, qui est complètement à court compète. Et il y avait l'année dernière, enfin la saison où ils finissent en finale contre L'Oréal, ils ont joué avec 15 joueurs. L'année dernière, ils avaient recruté Shaqiri, ils avaient recruté 2-3 gars comme ça, des gars de complément qui ont pu soulager parfois les titulaires dans des matchs entre guillemets faciles, parce que bon, il n'y a pas jamais de match facile en Angleterre, mais dans des matchs où justement entre deux matchs de Ligue des Champions, ils pouvaient laisser reposer un peu les titulaires, les faire jouer un peu moins que l'année d'avant. Toute l'équipe jouait tout le temps, quoi. C'est toujours les mêmes qui jouaient, quoi. Et après Van Dijk qui était arrivé, il avait un peu solidifié la défense. Mais c'est vrai que après Klopp, moi je lui fais confiance. Hein. Vu ce qu'il a fait depuis qu'il est arrivé, il nous a sorti du trou. On était dans le trou à part la saison avec Rodgers. Après, on était quand même dans le trou un bon petit moment. Le retour de Dalglish, ça avait pas fait tout ça. Donc Klopp, il a ramené la Coupe d'Europe, deuxième du championnat. Où on crève à un point, moi, le club, je lui fais confiance, et cette année, tout sur le championnat. Tout sur le championnat.
Une seule défaite contre les quatre des Citizens, on l'a bien compris, votre cœur est rouge, Pierre, merci. Oui. On va parler de City un instant. Julien Laurence nous disait, effectivement, Liverpool-Norwich pour le vendredi, samedi 10. Ils vont aller à West Ham, qu'ils ont battu le 17 juillet, les Citizens, avec cette préparation, avec trois victoires notamment. On revient un petit peu sur ce cas, Rodri, ancien de Villarreal, de l'Atlético International Espagnol. Fabien Delph ne jouait plus. Est-ce que cette équipe-là est vraiment candidate à sa succession ou il n'y a que Liverpool qui peut encore l'inquiéter?
Je pense que Liverpool va encore les pousser jusqu'au bout, jusqu'à la fin du championnat. Après, l'arrivée de Rodri, elle rend cette équipe encore meilleure. C'est aussi simple que ça parce que en plus de Bruyne, je vois pas comment il pourrait refaire une saison comme celle de la saison dernière où il avait été blessé les trois quarts du temps. Donc ça veut dire que si t'as De Bruyne qui est là et à 100% et à son meilleur niveau pendant un peu plus longtemps que la saison dernière, ce qui sera pas difficile à faire. En plus, t'as rajouté Rodri qui est à 23 ans, un super joueur devant ta défense qui correspond parfaitement à ta philosophie de jeu, qui correspond parfaitement à ce que tu veux faire de lui et à son rôle dans cette équipe. En plus, le reste n'a pas changé autour de toi. T'as un Bernardo Silva qui sera encore plus fort, un Agüero qui sera toujours aussi fort, un Sterling qui sera peut-être encore plus fort que ce qu'il a fait les deux dernières saisons. Si tu perds Leroy Sané qui pourrait retourner au Bayern Munich, là tu iras chercher un autre ailier.
Paulo Breitner vient de nous dire c'est fait selon lui. Moi j'avais compris l'inverse, Julien. En Angleterre on dit c'est pas fait. Côté allemand, on se l'est déjà accaparé au Bayern.
Alors en Angleterre on dit que c'est quasiment fait.
Ah ok, bon alors tout le monde est d'accord.
Aussi, tout le monde est d'accord. Okay. Et qu'il reste donc 5 jours maintenant à City pour aller chercher un autre ailier sûrement de complément d'ailleurs parce qu'il devrait pas être ce sera pas un ailier titulaire puisque Sterling et Bernardo Silva occuperont les deux ailes autour d'Aguero, mais quand même il leur faudra un autre joueur de complément pour compléter cet effectif. Mais c'est vrai que cette équipe là elle reste forcément candidate à sa propre succession parce qu'elle a été tellement forte ces deux dernières saisons avec 100 points la saison précédente et 98 la saison dernière que il va falloir que Liverpool soit encore meilleur que l'année dernière.
Les Sky Blues avec nous, Damien Périnel qui porte le veste bleu ciel très très bien ce soir, il a une question.
Que penses-tu du départ de Company justement parce qu'on sait que dans le vestiaire c'était quelqu'un qui avait une énorme importance, même s'il jouait moins l'année dernière, il a marqué un but décisif hein, sur une frappe venue d'ailleurs.
Contre Leicester, ouais.
Voilà, et d'ailleurs en fait ça va m'amener même par rapport au match de demain parce que quand on voit jouer Liverpool contre Man City, souvent la cible du pressing, c'était une fois que Compagnie avait le ballon dans les pieds, c'est là qu'on pressait. Et je voulais voir aujourd'hui, justement déjà si il a été remplacé ou même en termes d'état d'esprit, et puis éventuellement pour demain, maintenant, quelle va être la cible de Klopp?
Non, tu arrêtes. Alors déjà dans le leadership, je pense que c'est une très grosse perte. Et d'ailleurs, j'étais très surpris de voir que City ne lui avait pas proposé une année supplémentaire à son contrat. Il arrivait en fin de contrat et ils lui ont jamais proposé une année supplémentaire. Quand ils ont commencé à en discuter, lui avait déjà de son côté l'offre d'Anderlecht qui, forcément pour lui, retourner à la maison dans ce rôle-là d'entraîneur-joueur était forcément très attrayant. Mais je suis d'accord avec toi. J'étais un peu surpris de la façon dont ils l'ont laissé partir. Parce que même s'il n'était pas toujours fit, même s'il ne pouvait pas jouer 38 matchs par saison, il était quand même tellement important dans le vestiaire. C'était un joueur qui représentait vraiment ce club de Manchester City. Ça faisait tellement longtemps qu'il était là, que ça va être une grosse perte, surtout au niveau de l'état d'esprit, plus que pour tout le reste. Après, il y a d'autres joueurs qui peuvent peut-être prendre la suite. Un Raheem Sterling, par exemple, qui l'année dernière, à ce niveau-là, a vraiment franchi un palier. On l'a vu notamment dans son combat contre le racisme. On l'a vu dans tout ce qu'il a pu faire en dehors des terrains aussi. Il faudra
mais tu
voir.
Penses, mais pardon, c'est vrai Julien, que... mais tu penses que dans le vestiaire, il peut s'émanciper, il peut s'affirmer, pardon?
Oui, il a déjà beaucoup fait la saison dernière et je pense que la plupart du vestiaire a beaucoup apprécié ses prises de position, notamment, comme je viens de le dire, contre le racisme ou ce genre de choses-là. Et il avait fait beaucoup de progrès aussi dans son ouverture au reste du vestiaire comparé aux saisons précédentes. Et je pense que c'est là aussi que tu vois des joueurs franchir des paliers. C'est pas simplement sur le terrain avec le nombre de buts ou le nombre de passes décisives et des choses comme ça. C'est aussi comment, comme tu l'as très bien dit, ils arrivent à s'émanciper dans le vestiaire. Et quand t'as un coach comme Guardiola, c'est pas facile de s'émanciper non plus. Hein. Il prend une telle place dans ce vestiaire, il a une telle importance que pour un Raheem Sterling, je pense que la saison dernière a vraiment été une saison clé et il a vraiment franchi un palier.
Je vais loin, c'est capillotracté, mais il y avait un phénomène un peu Léo Messi, c'est-à-dire que Léo Messi évidemment intouchable et puis avec la sélection ça marchait pas. Sterling c'était un petit peu ça aussi. Là il y a les deux, il a été performant et en club et avec les Three Lions, donc ça vous permet un petit peu de dire ça y est, je suis là et j'assume.
C'est vrai que la Coupe du Monde 2018 pour lui a tout changé parce que jusqu'à là il avait, comme tu l'as dit, hein, beaucoup de soucis avec la sélection anglaise. Pendant 3 ans il n'avait pas marqué un seul but. 3 ans en sélection sans marquer un seul but pour un joueur offensif comme lui, c'est plus qu'une traversée du désert. Et la Coupe du Monde 2018 à lui, mais comme à d'autres joueurs aussi, il lui a fait tellement de bien mentalement et psychologiquement qu'il est revenu dans un autre état d'esprit complet, surtout après la saison qu'il avait déjà faite en club avant la Coupe du Monde. Et la saison dernière il est sans aucun débat le meilleur joueur anglais de tout le championnat.
On va prendre Adam au 32-16. Ça vous excite pas des masses, Community Shield? Bonsoir Adam, tu nous dis ouais, tape quoi, tir au but.
Ouais, salut l'after. Ouais, salut. Non, moi, ouais, tir au but. Bon, après, faut voir. Bon, c'est parce que la préparation des matchs amicaux, il n'y a pas eu forcément d'excellents résultats, à part le dernier match contre Lyon.
Alors voilà, non mais on comprend mieux, excellents résultats. Adam, supporter de Liverpool.
Comment?
Non, je précise, tu es supporter des Reds.
Oui.
Oui, non mais c'est une évidence pour toi, pas pour nous.
Excusez-moi parce que j'entends pas très bien.
Et c'était à moi de préciser cette évidence parce qu'on parlait qui peut l'emporter, tir au but pour ce match.
Ouais, tir au but, ouais, voilà. Bon, après, ouais, je donne ça. Voilà. C'est vrai que ces matchs qui, ouais, m'excitent pas des masses non plus. Ouais. Bon, après, bon, voilà, c'est toujours un trophée à gagner. Après, voilà, pour avoir suivi un petit peu, j'étais justement, on pouvait pas voir, mais j'étais justement à Evian. Et puis, il y avait une bonne ambiance. Le dernier match contre Lyon s'est plutôt bien passé. Il y a les cadres qui sont revenus pour jouer quelques minutes. Donc après Boston City, ouais, je crois une meilleure préparation, c'est plutôt mieux passé au niveau des résultats. Donc un match nul. Après on verra.
Les 6-0 contre ou les victoires 3-0 contre Yokohama, on ne sait pas effectivement ce que ça veut dire pour plus tard.
Je trouve que ce style de match peut t'aider en tant qu'équipe, par exemple une équipe comme Rennes cet après-midi qui joue contre le PSG, elle est déjà dans un mode compétition. Et c'est jamais simple, lors d'une première journée de championnat, d'être tout de suite dans ce mode, allez, maintenant, les matchs amicaux, c'est terminé, et parfois, t'as du retard à l'allumage, parce que justement,
c'est difficile,
t'as pas switché. Ah, ouais, je pense. Parce que t'as tellement d'appréhension, d'incertitude.
Oui, mais t'as le public
sur ce premier match de championnat.
Sur les matchs amicaux, des fois, t'as les
mains courantes. Ils n'auront jamais pu lâcher les chevaux, Rennes. En fait, ils sont toujours tout de suite dans la dureté, quoi. C'est âpre.
Ouais, voilà, c'est âpre, mais je trouve que ça les met en mode compète, quoi. Et demain, un match comme Man City Liverpool, ça les met aussi dans. Ils switchent le cerveau, quoi. Ça y est, c'est la compétition, même si ça paraît un match de préparation supplémentaire pour nous spectateurs.
Une petite chose, je trouve. Parce
en tout cas, pour club, c'est un match important. Ils comptent bien. Ouais, ils comptent bien. Mettre les gaz, ouais, pour ce match-là, il le prend vraiment avec de l'importance. Parce que je pense que, ouais, pour lui, c'est ce qui va vraiment lancer la saison.
On a un autre supporter qui nous a dit exactement le contraire tout à l'heure. On a, en tout cas, au fil des mois, des entraîneurs au bout d'un moment qui disent je veux faire un quadruplé, un quintuplé ou un sextuplé. Ils le comptent, hein, le premier trophée de début août. Hein.
Évidemment.
Ouais, bien sûr. Ouais.
Évidemment. Moi, je voudrais juste. Parce qu'on a parlé de. Du trophée des champions allemands, le nôtre, et puis maintenant on parle de celui anglais. Alors, que ce soit pas des matchs qui soulèvent les foules, voire qui emballent même les supporters des deux camps, je le conçois parfaitement que les journalistes disent « Ouais, c'est pas un titre, c'est une coupette comme ça que tu rapportes. » Quand tu le vis dans ton équipe, même si tu es une équipe qui est habituée à gagner des titres,
bien sûr.
Ça compte.
Ça compte.
Quand tu le vis dans ton équipe et que c'est une équipe qui se trouve comme Rennes, peut-être une fois tous les 5 ou 10 ans ou plus à jouer ce match-là, évidemment que ça compte. Mais pour n'importe quel joueur ou entraîneur,
ça restera positif pour Rennes. Même, on dira, on a fait un bon match, etc. Parce que
non,
faut pas aller
pas
au bout du monde.
Je tournerai ta question.
Et prendre une trempe.
Non, Thomas, c'est
ça reste fondateur. Est-ce que c'est fondateur? Est-ce que c'est un élément fondateur?
Non, mais le fait d'avoir perdu, ça, voilà.
Il veut faire Géopardi. Il veut me dire non, mais pose-moi la question autrement.
C'est pas des matchs qui donnent le ton d'une saison, mais comme l'a dit Damien, ça te permet, parce que il y a un trophée au bout, il y a une carotte, ça te permet déjà quand même au niveau du mental de switcher, t'es en mode compétition. Ça change tout, parce que tu penses moins, il faut pas que je me blesse, on va m'observer peut-être pour un transfert, et parce qu'à Shenzhen, à part nos amis spectateurs, il y a peut-être pas grand monde.
On continue avec notre page Première Ligue. On croyait que Chelsea pouvait pas recruter. Eh bien si, messieurs, il y a un homme, Julien Laurence, qui a tweeté « Home, sweet home ». Eh bien, c'est pas Nantes, c'est pas Madrid, c'est ramener Maquet à la maison. Allez, les Blues, allez. Je plaisante, mais... Hey.
Il est fou, ce type.
Mais ça marche ou pas? Claude Makélélé, de retour à Chelsea, conseiller technique des jeunes joueurs. Quand on a un contingent, Julien, de 60, 70 joueurs prêtés dans d'autres divisions, le retour de Claude Makélélé, qui a joué évidemment avec Frank Lampard, très bonne pioche, point d'interrogation.
Oui, je pense... Ouais, non, t'as raison, très bonne pioche. Même pour ceux qui sont pas en prêt, même ceux qui sont au centre de formation, ils ont un très bon centre de formation à Chelsea qui produit beaucoup de jeunes joueurs. Le problème qu'ils ont, c'est qu'ils ont pour l'instant pas trop leur chance en équipe première, mais ça viendra peut-être. Et puis l'arrivée de Claude montrera peut-être que justement c'est le chemin qu'ils sont en train de suivre avec Frank Lampard aussi, que Makélélé revienne avec Lampard pour travailler avec Jody Morris aussi, qu'il a connu en tant que joueur. Il y a aucun doute là-dessus. C'est très bien pour le club. Peter Cech est revenu aussi comme directeur sportif. Tu sais, c'est pendant longtemps un club qui a ignoré un peu ses anciens joueurs, et là de voir Cech, Lampard, Morris et Makélélé tous revenir le même été, je pense que ça montre effectivement le tournant que ce club est en train de prendre.
Il me semble qu'il avait un poste un peu similaire à Swansea à l'époque, hein. Il était adjoint lorsqu'il était à Swansea, c'est ça?
Mais il était plus adjoint technique comme un adjoint normal, tu sais, du coach là. Alors que là, c'est vrai qu'il aura sûrement un petit peu moins à faire avec l'équipe première et plus, comme on l'a dit, avec un peu les jeunes joueurs. Mais il aura quand même, il sera là sur le terrain d'entraînement tous les jours. Il pourra sûrement conseiller Lampard si Lampard en a besoin aussi.
Un super scout. Le meilleur de Claude Makélélé après carrière, c'est déjà ce passage là à Paris. Et ensuite, il y a eu le Bastia, c'était plus difficile. Là, il sort de Huppen en Belgique. Avait envie de retrouver Congo, Nantes. Le voilà à Chelsea. Moi, ce que je trouve fort, effectivement, c'est ce que tu dis, c'est qu'à un moment, Abramovic, on avait une équipe un petit peu nouveau riche, comme ce qu'on peut entendre sur le Paris Saint-Germain, sur Manchester City, et là, c'est une patte vraiment identifiée, Blues, avec les anciens, très clairement, autour de Frank Lampard.
Ouais, tout à fait. Mais comme en plus ils peuvent pas recruter, à un moment ils vont devoir s'appuyer un peu plus sur leurs jeunes joueurs, les Callum Hudson-Odoi, les Mason Mount qui étaient en prêt à Derby avec Lampard la saison dernière et qui là est revenu au club, les Tammy Abraham aussi, ces joueurs qui ont du talent, qui peut-être pas assez pour...
Parle-nous de ce Tammy Abraham. Aujourd'hui, Borussia Mönchengladbach menait 2-0, un but de Pléa, un but d'Hoffmann. Chelsea est revenu avec des pénaltys, Barclay et Abraham. Ce Tammy Abraham, on va le dire hein, à nos auditeurs, en 37 matchs à Villa, il est l'artisan de la remontée, 25 buts. Est-ce que ça veut dire que Giroud va être encore sur le banc cette année? C'était l'international de l'Euro des moins de 21.
Oui, c'est ça, on verra. En tout cas, il a un gros potentiel, on l'a vu en Championship, on l'avait vu aussi avec Bristol City l'année précédente. Mais personne ne sait si aujourd'hui il est assez fort pour briller en Premier League. C'est toute la question, on le saura au cours de la saison qui va venir. Giroud reste, quoi qu'il arrive, un joueur très important pour eux, surtout si Abraham n'a pas le niveau, en fait, ou met trop de temps à avoir le niveau. Parce que tant que t'as pas joué en Premier League, tu sais pas si t'as le niveau ou pas, et je pense que Lampard est dans ce même fonctionnement là il va lui donner sa chance, ce sera à lui de la prendre, et s'il la prend et qu'il est bon, il jouera, et s'il la prend pas et qu'on voit tous qu'il est trop juste, bah il l'aura pas, et ça redeviendra un joueur de Championship à un moment, et il est peut-être pas prêt encore pour la Première Ligue, on sait pas, mais au moins il va avoir sa chance, ça c'est sûr. Après ce sera à lui de la saisir ou pas.
Avec le numéro 9 dans le dos. Julien Laurence, lui, il a le numéro 10 dans le dos, parce que des numéros 10 dans notre team à l'after. Liverpool, Norwich, dès vendredi soir, ça reprend. Je vois l'œil de Damien qui avait peut-être un dernier petit mot à dire sur la Première Ligue.
Sur Julien Laurence, très bon numéro 10 en plus de ça. Au match de l'after, il a éclairé le match de l'after de part sa technique.
Merci Julien, très bonne soirée. On se retrouve très vite dans l'after.
On marque une petite respiration
et dans un instant, on va revenir sur le quasi sans faute des clubs français, justement je blague, quasiment que des défaites, hormis Monaco et un but de Falcao. Les dernières infos avant de se quitter, l'after sur RMC, c'est jusqu'à minuit, à tout de suite.
RMC, l'after foot.
Amicaux, les matchs de préparation, appelez-les comme vous voulez. Carton plein, quasiment que des défaites pour les derniers matchs des clubs français. Allez, rapidement, et puis on va les débriefer un peu. Lyon était à Bournemouth face aux Cherries, ils ont été marrons 3-0. Nice en a pris 8 à Wolfsburg.
Nice, c'est les journées portes ouvertes là. Ils en ont pris 6 contre Burnley la semaine passée. Alors, ils en ont pris 8 et les coachs avaient dû s'arranger pour jouer en plus la prolongation.
Dante est le seul à avoir marqué 8-1 à l'arrivée.
Enfin, ça explique même pas le...
L'ASS battu 2-1 à St. James's Park contre Newcastle. Alan Saint-Maximin, à peine descendu de l'avion, a joué 30 minutes, une petite chevauchée. Et Ruffier a fait quelques arrêts décisifs. Ils auraient pu en prendre un petit peu plus. Le LOSC battu en fin de match. Brian Cristante, 3-2 pour la Roma dans le temps additionnel. Et puis un petit 1-0 quand même de Monaco face à la Samp. El Tigre, Falcao. Lyon annonce une équipe offensive avec 5 joueurs titulaires à vocation offensive. Ils ont pris 2-3 buts par match amicaux quand même.
Il me semble qu'ils sont à 13 buts encaissés en 5 matchs. Donc c'est pas si anodin que ça. Malgré aujourd'hui la présence de Andersen qui s'est fait bouger sur le troisième but, mais ils ont joué contre une équipe de Bournemouth qui a fait la moitié d'équipe c'était de jeunes joueurs, mais on a senti une équipe de Lyon, alors cuite, je sais pas physiquement. L'investissement des joueurs était assez compliqué au niveau des courses. Schéma tactique différent avec Aouar et Thiago Mendes qui jouaient à 2-6, Memphis en 9,5 et devant Dembélé. Et aucun après Bertrand Traoré sur le côté et Martin Tarrier de l'autre côté, aucun retour défensif pour aider les latéraux. Enfin, les deux milieux centraux qui arrêtaient pas de naviguer à droite à gauche, de faire l'essuie-glace. Donc ça veut dire qu'ils étaient toujours à contre-temps. Ils ont pris un bouillon.
Je te mets en porte à faux, un défenseur qui parle d'un autre défenseur, c'est russe que je te fais là, mais Joachim Andersen, le Danois, un CSC lors du dernier match. Là, il y a un dégagement aux 5m50, la passe avec Anthony Lopez. Et on a l'impression qu'il y a les fils qui se touchent. Est-ce que ça va faire comme Caleta-Tsar? Il faut du temps. Je compare avec un autre central dans un autre Olympique.
Difficile de le condamner.
Vu le montant du transfert et les attentes.
Ah, mais difficile de le condamner aujourd'hui. Non, mais c'est sûr c'est pas les meilleurs débuts, et surtout quand tu veux t'imposer comme un patron. Et enfin, on voit la réaction de Dembélé quand sur le troisième but où il se dit mais enfin qu'est-ce qui se passe quoi, c'est censé être un leader en défense et ça fait deux fois de suite qui nous plombe. Mais même au-delà de ça, tout au long du match, alors ouais, il nous a sorti quelques belles relances, on va pas mentir, mais c'était assez compliqué et très nerveux. Et ça ramène pas beaucoup de sérénité, en tout cas, sur ce qu'on a vu aujourd'hui.
La SSE, le voisin, la défense centrale Perrin-Saliba, on l'a vu, je vous le disais, Ruffier fait plus de 4 ou 5 arrêts décisifs, sinon l'addition aurait pu être un petit peu plus lourde. Les débuts de Timothée Weah avec le LOSC, plutôt en 9,5 hein, derrière Loïc Rémy, un but, une passe à 1-2 avec Jonathan Bamba. 6 matchs pour eux, 7 buts marqués, 5 buts encaissés. On est vraiment impatient de voir s'ils peuvent franchir cette étape Ligue des Champions, tout simplement.
Oula, je suis. On est très très sceptique. Hein. Ils vont avoir un groupe, on le sait, très relevé, très difficile. Voilà, on va mesurer sur la fin de ce mois d'août et le début des Coupes d'Europe. Est-ce que notre Ligue 1 va encore nous hypnotiser par rapport au niveau des coupes européennes? Toute coupe européenne.
J'ai besoin que tu précises ça, François. La poudre aux yeux, qu'est-ce que c'est?
C'est-à-dire que je trouve que le décalage se fait de plus en plus, le fossé se creuse de plus en plus entre le niveau global de la Ligue 1 et le niveau des coupes européennes.
Par exemple, 15 matchs gagnés par Paris avant un accro contre Bordeaux, et alors qu'ils ont du mal dans leur groupe.
Et que dans les matchs de préparation, qui sont aussi des matchs de préparation contre des équipes étrangères, et là je trouve qu'il y a beaucoup d'équipes anglaises finalement contre lesquelles on a joué. Alors c'est des équipes, peut-être que ça s'explique parce qu'elles ont exactement le même timing de préparation que nous, parce qu'ils reprennent...
De plus belles affiches cette saison en matchs de préparation pour des clubs de Ligue 1.
Mais je pense qu'on a eu beaucoup de, non pas beaucoup de roust, mais
il y a beaucoup de défaites quand même.
Alors, vous êtes avec nous sur RC Sport News, vous les voyez, hein, vous le rappelez.
Certes, ce sont des amicaux, des matchs amicaux, mais au bout d'un moment, les résultats reflètent aussi la valeur que tu proposes sur le terrain. Et s'il y avait un accro ou deux, on passerait. Mais là, Nice qui se prend deux roustes d'affilée. Alors même si ce club est dans une situation assez complexe.
14 buts en deux matchs. Hein.
C'est
14 buts en deux matchs.
Ouais, mais les mecs, ils ont attends, ils jouent avec le frein à main, ils savent pas qui est leur patron, comment ça va
non,
faire.
Non, au bout d'un moment, t'es sur le terrain, le patron, ça non. peut être qui tu veux, ouais. Tu dois faire mieux que ça. Par contre, je me mets à la place de Patrick Vieira, et là, il doit avoir de
sacrés mots de tête. Qui boue. Alors, même s'il connaît le calendrier, il sait très bien que cette difficulté qui est forte de ne pouvoir activer le marché des transferts que les 15 derniers jours du mois d'août, c'est évidemment un obstacle très très important. Et avec qui tu vas le faire, parce qu'a priori Gilles Grimandi, est-ce qu'il restera, est-ce qu'il partira, est-ce
même lui s'il doit rester,
lui a priori il s'est engagé à rester. Après il faut voir à quoi ressemblera la cohabitation. Mais pour revenir à nos clubs français dans ces préparations face à des équipes étrangères. Mais les équipes étrangères, quand je dis équipes étrangères, je parle des quatre grands championnats européens. Bon, même si Monaco a tapé la Sampdoria. Mais voilà.
Un petit joue Bournemouth qui s'est maintien.
Finalement, on ne devrait pas forcément s'en inquiéter. C'est que ça va refléter le niveau de la Ligue 1. Et c'est pour ça que quand on me parle de l'exportation de la Ligue 1 à l'étranger, ok, c'est super les gars, mais
un débat qu'on a eu
ni la qualité ni le spectacle sont finalement au rendez-vous, sauf quand on joue entre nous. On a des matchs intéressants des fois en Ligue 1. Oui, ça arrive avec les Cadors, avec les.
On a vu l'International Champions Cup, toi ancien joueur de New York, qui était blindé, des League One Games où les stades étaient un peu moins bien remplis.
Nous, quand on jouait ces matchs-là contre Chelsea, Club America, c'était plein, il n'y avait plus une place de disponible. Alors que là, c'est vrai que la EA League, je ne sais pas
oui,
quoi.
Oui, c'est difficile. League One Games dans la Ligue 1 Conforama.
En tout cas, ça reprend avec Monaco Lyon vendredi prochain. On aura le temps évidemment d'en parler dans l'after, mais on va voir un petit peu. Alors pas évidemment avec ce match, mais voilà. Attendons la fin du mois d'août pour se dire bon, est-ce que c'est un championnat intéressant?
Tout ça en gros, le mode vacances c'est fini là. La prépa c'est fini. J'espère que tout le monde va, voilà, comme je disais tout à l'heure, va se mettre en mode compétition.
Ce que tu dis, il faut de joueurs. Alors tu parlais des quatre offensifs à Lyon qui font même pas les efforts de replacement défensif. Je sais pas.
On a un dernier match de prépa et on va le débriefer demain dans l'after. C'est Marseille à Naples et on aura un capitaine. AVB a choisi. C'est CrossFit Steve Mandanda. Non, c'est ça parce que effectivement, il a perdu 10 kilos. Il était comme
10 kilos, t'exagères.
Cure thermale de Merano, 10 kilos. Après, tu fais un petit peu le yo-yo, hein, mais au départ, ça a été 10 kilos fin juin. Tu bouffes que du quinoa à Merano. Puis de la
tu bouffes même pas.
Piscine, tu l'as fait ?
Non, mais j'en ai
fait. Damien Périnel.
Non, mais attends, tu peux aller faire 4-5 jours.
Non, non, mais il y a des joueurs qui l'ont fait pendant 3 jours.
Voilà, ma question.
Tu bois que
de la soupe. Ni Payet, ni Luis Gustavo, pas de joueur de champ. Fin au débat.
Bah oui, puisque alors là, c'est double numéro un dans le but. Steve Mandanda est capitaine, voilà, il y a pas de d'hésitation, les choses sont claires. Après, est-ce que Steve Mandanda au niveau exigé par l'Olympique de Marseille, est-ce qu'il peut nous sortir avec 10 kilos de moins une saison comme il en a faite par le passé, pas la dernière, c'est sûr, il le sait.
C'est sa troisième saison hein, après cet interlude à Crystal Palace. Ce qui est gênant, c'est que si tu étais en surplus pondéral, que tu disais que c'était pas le problème, mais que tu y vas quand même, c'est que tu reconnais qu'il y avait peut-être un petit souci.
Non, mais t'as le coach qui a un œil neuf et qui a pu apprendre à connaître son groupe à travers les différents stages de préparation, s'est peut-être rendu compte que c'est lui qui dégage le plus naturellement en tant que leader de cette équipe. Et aujourd'hui,
et si t'avais dit tir de clocher et que t'es un nouvel entraîneur, bah tu voilà, t'as le gardien, c'est le premier hein, première ligne, aura international, puis voilà, fin au débat.
Après, il y a toujours eu un débat hein, entre savoir est-ce qu'on met un capitaine gardien de but ou alors un joueur de champ. Et parce qu'il y a des coachs qui ne mettront jamais un gardien capitaine parce que c'est trop loin de l'action. Quand il faut mettre un peu de pression sur l'arbitre, c'est pas possible. Voilà, c'est censé être le relais de l'entraîneur aussi d'un point de vue tactique, le gardien de but. Donc encore une fois, c'est plus, ce n'est pas une question de personne, c'est plus une question de poste.
En tout cas, c'est un match à suivre demain à partir de 21h avec nous. Il nous reste une petite minute et je veux prendre le temps, si vous aimez le sport ou la boxe, eh bien d'avoir une pensée pour Jean-Claude Boutier qui nous a quittés à l'âge de 74 ans. Pensez à sa famille,
oui.
François.
Grand boxeur français et puis un consultant de boxe comme on n'en avait jamais eu et peut-être qu'on n'en aura plus parce qu'il racontait, il faisait vibrer... La boxe en pleine nuit, ces matchs
immense réveillés
pour aller regarder
j'ai eu la chance
ces matchs
de commenter
à Las Vegas.
Avec lui, je peux vous dire qu'il avait la chemise trempée au bout de trois rounds, tellement il se donnait aussi au micro comme il se donnait derrière.
Cette chaleur dans la voix, ce grain dans la voix aussi, voilà.
C'est vrai qu'à l'époque, ça c'était avec Charles Bietri. Il y avait ce duo de commentateurs. On se levait la nuit pour voir ça et ça fait une voix mythique.
Et un sourire.
Voilà, pensez à cette voix, pensez à ce sourire, cette voix rauque. Jean-Claude Boutier nous a quittés. On vous quitte, nous, tout simplement, pour la soirée.
Allez,
on
salut.
S'est régalé. After les RMC, ça reprend demain à partir de 21h, Marseille-Naples, en fil rouge. Merci les gars. Bonne soirée.
Bonne soirée.
RMC, l'After Foot.